Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
On retrouve Clément Moutier.
Nous allons partir direction Londres tout au long de cette émission, mais plutôt que d'emprunter l'Eurostar ou le bateau, nous allons voyager grâce aux mots qu'a choisi Sabine Albert pour nous faire découvrir cette ville avec son dictionnaire de Londres aux éditions Honoré Champion. Sabine Albert, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes agrégée de lettres modernes et diplômée d'anglais. Et ce dictionnaire de Londres aux éditions Honoré Champion n'est pas votre premier dictionnaire, je crois ?
Non, ça n'est pas le premier. Il fait suite à un dictionnaire du Japon et un dictionnaire de la Chine qui étaient parus aux éditions des Sylves il y a quelques années, qui étaient déjà des dictionnaires culturels.
Et donc vous êtes devenue vous aussi dicophage à l'image de Jean Pruvot, une passionnée de dictionnaire ?
C'est extrêmement contagieux. Et c'est un mal dont je souffre désormais, entraînée en cela par mon maître, qui d'ailleurs m'a ramené récemment quelques volumes, hein, très lourd à porter, encombrant, mais dont on ne peut pas se passer, c'est terrible.
Vous vous êtes aussi intéressé au rapport qu'entretiennent les mots et les cultures, et notamment dans votre doctorat ?
Oui, puisque le principe de ma thèse est de confronter les vocabulaires anglais et français et voir ce qu'ils ont en commun, puisque ce sont deux langues qui ont beaucoup emprunté l'une à l'autre. Emprunter, redonner ensuite, enfin le sujet est inépuisable. Hein, et on voit aussi deux fonctionnements de langues très différentes, l'une qui a une académie et l'autre qui n'en a pas. Le français pose des limites lorsque l'anglais se constitue un peu sous la forme d'un conglomérat qui englobe vraiment tous les mots qui passent à portée. Et donc c'est un sujet passionnant.
J'imagine qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et alors, par exemple, pour ce dictionnaire de Londres, vous avez souhaité donner presque une épaisseur aux mots en citant des définitions de dictionnaires anciens et en donnant une définition actuelle, c'est ça ?
Oui, c'est ça. L'idée était de confronter ce qu'on disait hier des dictionnaires, donc dans les dictionnaires anciens, la perception qu'on avait auparavant, aux réalités d'aujourd'hui et mesurer le décalage qui peut exister ou pas, d'ailleurs. Tout dépend des entrées. Et puis, j'ai aussi voulu placer mon dictionnaire sous les auspices de deux grands dictionnaires aussi, puisque le sous-titre, qui toujours se releva de ses ruines parce que qui est fatigué de Londres est fatigué de la vie, est constitué de deux citations. La première, qui toujours se releva de ses ruines, il s'agit de citation du dictionnaire de la conversation, pour ne pas paraître idiot, il faut toujours l'avoir sur soi. Et qui est fatigué de Londres est fatigué de la vie, c'est une phrase de Samuel Johnson, qui est l'auteur du fameux dictionnaire de Johnson, donc un grand lexicographe.
Et alors Sabine Albert, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment est née cette ville de Londres, puisqu'évidemment à la lettre L, on trouve le mot London, et apparemment elle tire son origine de la cité de Londinium, c'est ça ?
Oui, enfin le nom vient sans doute de Londinium, mais peut-être aussi de Londonvik. Il y a plusieurs origines qui sont possibles. C'est une ville qui est très, très ancienne, qui a été très souvent occupée, qui a été occupée par les Romains à l'époque de Néron et de Claude, ce qui a donné le nom Londinium, qui a été occupée par les Saxons, qui l'ont appelée Londonvik, la ville du commerce, qui a été occupée aussi par les Vikings. Il y a eu énormément d'invasions avant que les Normands ne s'installent à partir de 1066. Et à chaque fois, le nom a évolué, le nom de Londres s'est un petit peu modifié.
Et sinon, étymologiquement, ce mot London vient d'où, Sabine Albert ?
Alors, l'origine du nom de Londres est un peu incertaine. Il existe plusieurs hypothèses. La plus ancienne renvoie à un certain roi qui s'appellerait Lude, qui aurait dirigé la cité et, en son honneur, on aurait nommé la ville Ker Lude. D'ailleurs, on retrouve la racine celte, Ker, la maison.
Oui, et bretonne, du coup, aussi.
Oui, puisqu'on est dans les langues celtiques. Donc, à partir de Ker Lude, on aurait eu Ker Lundane, mais on ne peut pas en être tout à fait sûr. Une autre hypothèse veut que Londres, enfin London, découle de Lyn, qui signifie étang, et de Dean, qui signifie colline, ou encore de Long Dean, la forteresse du lac. Et puis, bon, d'autres hypothèses existent. Les linguistes ne sont pas du tout sûrs et travaillent encore beaucoup pour essayer de comprendre ce toponyme.
Et alors, en parcourant votre dictionnaire, Sabine Albert, on se rend compte que Londres est finalement une ville qui a su conjuguer la ville moderne et la ville ancienne, un peu comme les définitions que vous proposez.
Oui, oui, puisque la ville de Londres est très différente de Paris. Paris, c'est une ville avec de très beaux édifices haussmanniens, où tout est très préservé. Tandis qu'à Londres, le fonctionnement est très différent, puisqu'on construit sur ce qui existait déjà. On n'a pas du tout cette idée de sacrer, mettre un bâtiment très nouveau, comme le complexe Barbicane par exemple, mettre un bâtiment très nouveau à côté d'un édifice ancien, d'un architecte renommé, ne pose absolument aucun problème. Ce qui permet d'avoir une ville qui est, où tout est vraiment mêlé, à l'image des quartiers d'ailleurs, qui sont très différents les uns des autres et qui donnent l'impression d'avoir plusieurs villes en une en fin de compte.
Et justement, en parlant des quartiers, combien on compte de quartiers à Londres ? Ou au moins de quartiers principaux ?
Alors, on compte maintenant 32 boroughs. Donc ça correspond plus ou moins aux arrondissements, puisque un certain nombre de quartiers un peu plus excentrés ont été récemment ajoutés pour former le Grand Londres. Donc à l'origine, il y en avait 13, il y en a désormais 32 avec les arrondissements qui ont été ajoutés pour le Grand Londres.
Surprise à la définition du mot « adresse », on se rend compte que ce n'était pas si facile que ça avant à Londres de se repérer, puisqu'il n'y avait pas de numéro de rue, mais c'était les points cardinaux qui servaient à situer un habitat.
Alors, il y a des numéros de rue. Il y en a, mais à chaque fois, on doit préciser où on se trouve, dans quel type de quartier, si on est dans West Central ou East Central, je le dis à la française. Hein. Donc il y a un certain nombre de lettres qui permettent de se rapprocher, et de manière qui peut paraître assez anarchique, parce que Nord-Ouest 1, par exemple, est très éloigné de Nord-Ouest 2. Mais il existe des plans qui permettent de se retrouver, heureusement.
Et alors, on sait que Londres, au XIXe siècle, était la ville la plus peuplée au monde. Et donc, forcément, ça a amené une accélération dans l'urbanisation et ça a développé les moyens de transport. Et c'est d'ailleurs Londres qui a le plus vieux métro du monde.
Ça a été le premier métro, en effet, qui a été creusé parce que cette ville s'est étendue. Bon, il n'y a pas de frontière naturelle à Londres, en fin de compte, mis à part la Tamise. Qu'au début, un seul pont enjambait, d'ailleurs, pour des raisons qui demeurent assez mystérieuses. Mais de l'autre côté, le terrain est plat. Et donc, la ville s'est répandue, s'est agrandie et ne connaît pas vraiment de limites, englobant au fur et à mesure des hameaux, des villages. Et il est devenu assez vite impérieux de trouver un moyen de déplacement. En l'occurrence, le métro et le métro londonien est très très vaste. Hein. Il a de très nombreuses stations et il a joué des rôles importants parfois dans l'histoire, en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque les Londoniens qui subissaient le Blitz, donc les bombardements, s'y réfugiaient la nuit pour fuir les bombes allemandes.
Et il y a ce quartier qui tire son origine du mot célibataire, le quartier Albany. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment s'organisait la vie dans ce quartier, donc qui était réservé aux célibataires, c'est ça ?
Alors, l'Albany n'est pas exactement un quartier. En fait, il s'agit d'un immeuble qui avait été un immeuble très très grand standing, qui était réservé aux gentlemen. Donc, on n'entrait pas n'importe comment à l'Albany, on était trié sur le volet. Et surtout aux gentlemen célibataires. Et il était hors de question qu'une dame pénètre à l'Albany. Un certain nombre de célibataires fortunés s'y sont installés. On peut penser à Lord Byron, par exemple, ou encore à William Gladstone, qui a été Premier ministre. À partir tout de même de la fin du XIXe siècle, on a commencé à y tolérer la présence des femmes, mais un tout petit peu. Il était évidemment hors de question qu'elles restent passer la nuit. À partir de 1919, tout se perd décidément. Les couples mariés ont pu s'installer ensemble à l'Albany, et qui existe toujours et qui est toujours habité par des personnes des deux sexes.
Alors évidemment, Sabine Albert, dans votre dictionnaire de Londres, vous citez beaucoup de personnages importants, des personnages qui sont au cœur de cette ville. Est-ce qu'il y en a un qui vous a marqué particulièrement, ou est-ce qu'il y en a un qui est plus que les autres attaché à Londres ?
Peut-être Henri VIII, puisqu'il a énormément développé l'architecture londonienne. C'était vraiment un amoureux de l'architecture. Enfin bon, là, on est dans la période Tudor. C'est la Renaissance, l'amour des arts. Plus tard, sa fille, Élisabeth Ière, développera le théâtre avec Shakespeare. Et donc, il a fait construire, par exemple, le palais de Whitehall, hein, qui existe toujours. Il a fait rénover quantité de palais. Donc Henri VIII est évidemment un personnage qui est très très important. En tant que lexicographe, on peut se sentir tout de même obligé de rendre hommage à Samuel Johnson, hein, le père de la lexicographie anglaise, dont je ne résiste pas au plaisir de vous lire le portrait qu'en dresse le nouveau Larousse illustré, si vous le permettez. Pauvre, scrofuleux, défiguré par la maladie. Il n'en finit pas moins, grâce surtout à son robuste bon sens, à son intrépidité morale et à sa brillante conversation, par exercer longtemps une véritable dictature littéraire.
Ce portrait de Samuel Johnson nous prouve à quel point Londres était aussi une ville littéraire, culturelle, et il y a donc des quartiers qui sont encore aujourd'hui marqués de cette empreinte.
Tous les quartiers qui sont consacrés au théâtre, par exemple, il y a énormément de théâtres à Londres, donc du côté de Covent Garden, et puis en s'étendant encore un petit peu. Et puis bon, il faut penser aussi aux très nombreuses galeries de peinture, hein, parce que Londres est vraiment une ville des arts, hein, entre la Tate Britain, qui présente plutôt de la peinture anglaise, la Tate Modern, qui est consacrée à l'art moderne, et puis le British Museum avec sa collection égyptienne qui ferait trembler Belphégor. C'est vraiment une ville qui offre tout.
Et par exemple, ce quartier de Bloomsbury, est-ce que vous pourriez nous expliquer les origines de ce quartier, nous expliquer pourquoi on a l'image d'un quartier de librairie?
Alors, on a l'image d'un quartier de librairie parce qu'il s'agit du quartier universitaire où se dresse la grande université de Londres avec son imposante façade de briques rouges. Et comme il y a des étudiants, forcément, il y a des librairies et on y croise encore quelques étudiants anxieux de trouver le livre qui les sauvera pour leur prochain examen, qui errent dans les rues et arpentent les différentes librairies à la recherche du précieux bien.
Virginia Woolf y a installé une école là-bas ?
Oui, Virginia Woolf a vécu à Londres comme un grand nombre d'auteurs. On peut penser à Voltaire, par exemple, qui a écrit ses lettres philosophiques, qui sont d'ailleurs traduites en anglais sous la forme English Letters.
Bon, maintenant, quittons les arts, quittons la littérature. Sabine Albert, vous n'allez pas nous faire croire avec ce dictionnaire de Londres que cette ville est sérieuse, puisqu'évidemment, vous donnez les définitions des pubs, de la bière. Donc ça aussi, ça fait partie du patrimoine anglais.
Mais figurez-vous que la bière, c'est très sérieux. C'est très, très sérieux pour un Anglais et pour un Londonien. Et les pubs, c'est très sérieux aussi. Un pub, à l'origine, c'était tout de même un cercle paroissial où s'arrêtaient les pèlerins. Bon, ensuite, les ouvriers ont commencé à s'y syndiquer et puis on a eu quelques ravages de l'alcool, en particulier lorsque Londres a connu des périodes un petit peu moins prospères. Toujours est-il que le pub est une institution à Londres comme dans tout le reste du Royaume-Uni, que la bière y est servie de manière très différente, suivant qu'on la prend directement au tonneau, ou à la pression, ou en bouteille. Et puis on ne boit pas la même chose si on est un homme ou une femme. Ah oui, ça, il faut le savoir. Hein. Un homme boit une pinte. Une femme prend un demi et ou plutôt un verre de vin. C'est beaucoup plus distingué. Si un homme commande un panaché, un shandy, il passera évidemment pour quelqu'un de très efféminé. Et une femme ne commettrait jamais l'impair irréparable de commander une pinte. Ce serait scandaleux.
Et aujourd'hui, d'ailleurs, je crois qu'on est en train d'essayer de changer le contenant, essayer de passer de 50 à 33 centilitres.
La tentative est vaine. La tentative est vaine, puisque les Londoniens, ils aiment la nouveauté, mais ils sont très attachés à leur tradition. Abolir la pinte, hein, c'est comme faire tomber Big Ben.
Il y a aussi une chose qui est sûre sur Londres, ou peut-être est-ce une idée reçue, mais non, puisqu'on trouve quelques définitions qui en attestent, c'est que Londres est une ville de la mode, et il y a cette définition, par exemple, du chapeau melon. Est-ce que vous pourriez nous expliquer l'origine de ce chapeau melon ?
Alors le chapeau melon, avec ou sans bottes de cuir, enfin plutôt sans pour les businessmen, qu'on appelle bowler en anglais, tient son nom de sa forme, qui ressemble plus ou moins à un melon, et il montre à quelle catégorie appartient celui qui le porte, c'est-à-dire un homme d'affaires, et il est forcément lié au parapluie sans lequel on peut être décidément très ennuyé sous le climat londonien.
Alors justement, le climat londonien, souvent moqué ici en France, comment est-il exactement ? Vous donnez la définition du smog. Alors d'où vient déjà ce terme ?
Le smog, c'est un mot valise qui est formé de « smoke », la fumée, et de fog, le brouillard. Il est vrai que Londres, qui est construite au bord d'un fleuve, avec un climat qui est assez égal et avec des émanations de brouillard, dès l'industrialisation, dès la révolution industrielle, donc on est au milieu du 19e siècle, un peu avant parce que ça a commencé plus vite en Grande-Bretagne, a dégagé des vapeurs qui étaient extrêmement nocives. Et il s'agit d'un brouillard jaunâtre qui a fait fuir d'ailleurs un certain nombre d'asthmatiques. Même de nos jours, avec toutes les précautions qui sont prises pour limiter les pics de pollution, les asthmatiques peuvent être très gênés certains jours par ce brouillard qui leur encombre les bronches.
Et il y a aussi l'élégance à la londonienne. On connaît la mode punk. Les punks viennent de Londres ?
Les punks sont londoniens. Et s'il reste des punks quelque part dans le monde, c'est à Londres, plus particulièrement dans le quartier de Camden, où on les voit, crête iroquoise, bleu, verte, rouge, chaussures militaires, et en général, assez étrangement pour une catégorie de population qui s'inscrivait en faux contre la société de consommation et qui cherchait en fait un autre monde. Aujourd'hui, on les rencontre en train de distribuer de petits prospectus de propagande pour différents magasins, ce qui est quand même assez contradictoire dans le fond.
Parce que Camden, ce quartier, a changé aujourd'hui en 2012. Est-ce qu'il est resté fidèle à ses origines ou pas du tout ?
Il est devenu beaucoup plus touristique, voilà. Mais il est resté très fidèle à ses origines. Et c'est vrai que les anciennes halles, les marchés aux puces dégagent un charme indéniable.
Et évidemment, Sabine Albert, en cette année 2012, on ne pouvait pas évoquer votre dictionnaire de Londres sans parler des Jeux Olympiques auxquels vous avez consacré un article. Alors, je crois que c'est à Londres qu'on avait décerné des médailles pour la première fois.
Oui, la première fois que les Jeux Olympiques ont été organisés à Londres, c'était en 1908. On a distribué les premières récompenses sous forme de médailles d'or, d'argent et de bronze. Mais ça n'est pas la première fois, enfin, ça n'est pas la seule fois où Londres a organisé les Jeux. Puisque, à nouveau, en 1948, Londres a été ville organisatrice. Et là, en 2012, on les attend à nouveau.
Et alors, il y a aussi un point sur lequel je voudrais insister, c'est le travail iconographique qu'il y a dans ce dictionnaire. Ce sont principalement des iconographies qui viennent d'anciens dictionnaires, justement ?
Principalement, mais aussi The Graphic, qui fournit de très très belles illustrations, les cartes aussi, qui donnent un charme un petit peu rétro au dictionnaire, un petit peu désuet, et qui vont dans le sens de cette confrontation de l'ancien et du moderne, d'hier et d'aujourd'hui.
Et enfin, Sabine Albert, on ne pourrait pas nous quitter sans nous dire un mot sur la BBC, la fameuse radio anglaise.
The Beeb, qu'on appelle The Beeb ou Auntie. Oui, la BBC, c'est une institution. Tout le monde connaît la BBC. Elle diffuse partout. D'ailleurs, on peut même l'écouter en France. Et la BBC est traditionnellement très liée à la France, puisque c'est tout de même depuis ses ondes que le général de Gaulle a adressé son fameux appel un certain 18 juin.
Et avant de nous quitter, Sabine Albert, je vous laisse choisir une définition ou un mot qui, pour vous, définirait le mieux cette ville de Londres.
Eh bien, il s'agit de l'épigraphe du dictionnaire qui résume à elle seule toute l'énergie et tout le caractère pétillant et en même temps actif de Londres, qui est extrait du dictionnaire de la conversation et de la lecture. Des épidémies, des pestes, des révoltes, des incendies ravagèrent et dépeuplèrent Londres à plus de 20 reprises différentes. Mais toujours, il se releva de ses ruines et de ses cendres plus grand et plus puissant qu'il n'avait encore jamais été.
Eh bien, merci Sabine Albert. Je suppose que vous vous rendez souvent à Londres ?
Pas aussi souvent que je le souhaiterais.
Merci en tous les cas de nous avoir fait découvrir ce dictionnaire de Londres aux éditions Honoré Champion, dictionnaire préfacé par Jean Pruvot. Merci à vous et à bientôt.
Je vous remercie.